question commentaire, si vous voulez bien, Ali. Moi, ce qui m'a frappé en lisant votre roman, en dehors de l'aspect strictement littéraire, ou à cause de cela, parce que c'est une écriture limpide et très économique, ce qui me paraît toujours le meilleur de la littérature quand on arrive à cette économie-là, c'est qu'il y a quelque chose de ce que Diderot appelle élevé, hein, quelque chose qui élève le... Comment est-ce que Diderot dit cela ? Qui élève l'esprit et qui touche l'âme. Ce sont de vieux mots, de vieilles références, mais il y a quelque chose de profondément moral. Voilà, je vais employer le mot moral, parce que c'est celui... alors, évidemment, lorsque vous parlez de la fin de la guerre, la fin FIM, lorsque vous parlez également de cette traversée d'un monde à l'autre, qui est le passage par la guerre, et même lorsque vous, à de certains moments, c'est à la fin que vous évoquez le moment où vous allez chercher aux archives de la rue Oudinot les registres des esclaves vendus à Nantes. Ça arrive comme ça, ça déboule comme ça dans le texte, alors qu'il est question d'autre chose, et qu'on trouve Marion, Cafres, Île-de-France, Kumbo, Cafres, Île-de-France, Ragam, Malbar, Pondichéry, Ranaval, Magache, Antongil, Thomas, Mulâtre, Bourbon, que vous avez mis en capitale très lisible. Il y a là des incidences morales, ce que j'appelle une faute de mieux, des incidences morales. Et voilà, c'est la question que je voudrais vous poser.
Jean-Marie Le Clézio.
Oui, morale, c'est mal vu aujourd'hui de faire de la morale. Mais je ne
très
sais pas.
Mal vu.
Oui, très mal vu.
Oui, mais vous.
Oui, bah, j'aime beaucoup, de toute façon, j'aime beaucoup les archives. Hein. Je n'ai pas l'air de répondre à la question, mais en fait, j'y réponds. C'est que je crois qu'il y a, chez tout être humain, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension du quotidien. Chaque jour, on mène une vie assez banale. Mais à côté de cela, on est sollicité sans cesse par le passé, ce qu'on appelle l'histoire, mais c'est, en réalité, c'est le passé. Et dans mon passé, il y a deux éléments qui sont très difficiles à surmonter. Et il y a l'élément mauricien. J'appartiens à une famille qui a pratiqué l'esclavage et qui était propriétaire d'esclaves, qui les a achetés, vendus. J'appartiens à une société aussi, la société franco-mauricienne, mais française, pour laquelle l'esclavage était totalement justifié et qui se fondait là-dessus sur une sorte de contrat qui aurait existé entre l'esclave et son maître. Et les gens y croyaient. Et donc, pour résoudre cette première contradiction, ce premier point, je vais aux archives et je regarde comment ça se passait. Je constate que les rôles des esclaves, les registres dans lesquels on mettait leur nom, étaient des registres collectifs, on inventait leur nom, ils étaient dépouillés de leur identité, autrement dit. Mmh. Et ça me touche profondément. Et ensuite, le deuxième aspect pour moi, c'est la montée vers la guerre, ce dont je parle dans ce roman, parce que, en fait, je suis convaincu que le but de Hitler... et accessoirement celui d'une certaine intelligentsia française qui était complice de la montée de l'hitlérisme, c'était de la reprise de l'esclavage, le rétablissement de l'esclavage. Et que si les Allemands, on va dire si les Américains n'avaient pas été là, c'est ce que disait ma mère, la guerre aurait été gagnée par l'Axe assez facilement, je crois. Et il est très probable que dans les 5 ou 6 années qui auraient suivi, on aurait rétabli l'esclavage. L'esclavage en utilisant les populations slaves, les populations russes conquises, et éventuellement les populations, non pas françaises, mais limitrophes à la France, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, l'Afrique équatoriale, etc. Donc c'est ces deux contradictions qui font que, quand j'écris, j'ai l'air d'avoir quelque chose de moral parce que j'essaye de résoudre ces contradictions qui sont en moi, qui sont liées à mon enfance, à mon éducation, à toute mon histoire.
Contradiction parce que vous n'en êtes en rien responsable.
Si, j'en suis responsable parce que ce sont mes ancêtres. Les Français et les Mauriciens sont mes ancêtres. Je suis
responsable. Vous sortez porteur de cette histoire-là.
Ah oui, tout à fait.
Catherine.
Ça me paraît le propre des écrivains. Ils se sentent porteurs du passé. Je ne suis pas descendant d'une famille d'esclaves, mais j'habite une maison qui a appartenu à des esclavagistes, ce qui est donc très lointain comme rapport, et je me sens coupable quand même de ce passé. Vous n'avez pas tort sur l'esclavage. Il a existé un psychanalyste de langue alémanique, Georg Grodeck, qui est quand même assez connu, qui a fait un projet de réduction à l'esclavage de toutes les populations sémites. En 1918, il a fait ça. Donc ça a bien existé.
il y a eu les Constalliniens.
Alain Gérard Slamat.
Il y a eu les Constalliniens, qu'on a pu expliquer également comme une machine à exploiter la force humaine par la contrainte et par la violence.
Quel regard sur la colonisation, Jean-Marie Le Clézio, puisque c'est aussi l'un des épisodes sur lesquels s'ouvre le livre La Grande Expo Coloniale, c'est en 1931, si mes souvenirs sont bons.
Oui, oui, c'est vrai que ça aussi, ça a été un point brûlant dans l'histoire de la France, un point crucial, parce que c'était une sorte d'exposé justificatif de toutes les techniques de la colonisation. La colonisation est bonne, puisque nous réussissons à acquérir non seulement les forces, mais l'esprit des populations que nous avons soumises et que ces populations sont prêtes à contribuer à l'effort général. Elles l'ont fait, et pour le bonheur et pour le malheur du monde, parce que c'est vrai que la colonisation avait des aspects positifs. Mon père était de la colonisation britannique, c'était un médecin. Il a sauvé des vies. Il a passé 40 ans de sa vie à sauver des vies. Mais également, cette colonisation avait un aspect terrible, qui était la dépossession, la perte d'identité des populations, le remplacement des autorités locales par des autorités abusives et souvent par la corruption. Tout cela a commencé au moment de la colonisation. Et tout ça a été caché dans cette exposition coloniale qui, je rappelle, se tenait près de la Porte Dorée et dont le seul reste aujourd'hui, ironiquement, s'appelle le Musée de l'Immigration.
Musée de l'Immigration inauguré, la Cité nationale de l'Immigration inaugurée il y a quelques mois maintenant. Marc Kravetz.
Je suis un de vos lecteurs et évidemment...
Ne dites pas ça d'un air si triste, Marc.
Non, c'est pas triste du tout. C'est au contraire... Non, j'ai rien de triste. Il y a le fait que ça devient tellement rare d'être confronté à ce qu'on appelle la littérature en France. On a plutôt l'impression que la littérature sert à des tas de choses. D'ailleurs, c'est probablement très honorable du point de vue de ceux qui s'y livrent. Enfin, ça sert... Et vous, je suis frappé. On avait hier une conversation autour de cette table, autour de Picasso. Et... Alors évidemment, là, ça marche moins bien que la littérature de dire Picasso est né dans la peinture, sa langue est la peinture, il parle la peinture.
La peinture est sa langue maternelle, disait Anne Baldassare.
Alors évidemment, la littérature, ça fait un peu plus ambigu, parce qu'après tout, c'est des mots, et comme M. Jourdan, on emploie tous. Donc, mais c'est à ça qu'on pense en vous lisant, Jean-Marie Le Clézio, c'est la littérature. Vous êtes chez vous, quoi. Vous habitez complètement, vous écrivez des livres extrêmement différents, même si on y reconnaît comme ça une musique. Cette musique familière nous permet d'entrer familièrement dans vos livres pour en découvrir des livres différents, si je pouvais le dire comme ça. Et on a l'impression que vous êtes totalement dans votre monde.
Jean-Marie Le Clézio.
Oui, j'ai toujours aimé écrire, parce que j'ai appris à écrire avant d'apprendre à lire, ce que font beaucoup d'enfants. Mais ce qui était curieux, c'est que j'écrivais et que je ne pouvais pas lire ce que j'avais écrit. Je savais écrire sans savoir lire. Et donc, je crois que j'ai vraiment baigné dans les mots. C'était... Mais j'ai toujours pensé, enfin j'ai imaginé que ça pouvait être la guerre. Parce qu'après la guerre, nous n'avions rien. Nous vivions dans l'enfermement total. Et le seul moyen de se distraire, ça consistait à écrire. Et moi, j'avais un besoin impérieux de communiquer. Donc j'écrivais des petits romans que j'envoyais à mes cousines à l'île Maurice. Et elles m'envoyaient leurs commentaires. C'était mes premières lectrices. Et je crois que j'ai eu vraiment la conviction que c'était le seul rapport qui me convenait. C'était d'écrire et d'envoyer mes mots. Et romancier, professionnellement, ne fait rien d'autre que d'écrire et d'envoyer ses mots. Et d'attendre ce que l'on en dit. Et de corriger éventuellement. Parce que c'est vrai que dans la lecture, il y a l'exercice de la critique. Et moi, je suis très sensible aux critiques. Et j'ai besoin de ça parce que les mots ne sont pas seulement des bruits. Ce ne sont pas des éléments gratuits du langage humain, les mots écrits ont une charge très forte. Et je ne peux pas comprendre le monde autrement que s'il m'est raconté ou s'il m'est écrit. Ce sont les seuls moyens pour moi de le connaître.
Qu'est-ce que vous racontiez comme histoire à vos petites cousines quand vous étiez gamin ?
Ben, j'inventais des biographies. J'ai fait la biographie de Daniel III, roi imaginaire. J'ai écrit l'histoire aussi d'une mouette qui voyageait, qui décrivait le monde. J'écris des livres de géographie aussi. J'aimais beaucoup la géographie. Et là, j'inventais des pays parce que je ne les connaissais pas. Et c'était le seul moyen de pratiquer les mots estuaire, cours du fleuve, capitale. Enfin, il fallait, comme je ne connaissais pas la géographie réelle, il fallait l'inventer.
Alain Gérard Slamat.
Votre univers est extrêmement troublant et il se résume dans le titre. Et j'aimerais justement vous interroger sur ce titre. Je sais que Ali vous a posé la question. Votre livre est d'une gravité évidemment extrême. Il évoque la ruine d'une famille, il évoque des déportations, il fait une topographie des lieux désertés parce qu'on a obligé à les abandonner. Tout cela est intense et tout cela remue profondément l'âme, et votre titre, Ritournelle de la fin. Alors c'est ce mot, le choix de ce mot, sur lequel j'aimerais vous interroger, savoir comment vous êtes venu à le choisir et en quoi il correspond assez bien à ce, au fond, à votre intention littéraire.
Jean-Marie Le Clésio.
Oui, ce sont les fêtes de la fin de Rimbaud, c'est oui. Chansons de la oui. fin. Oui. Et aussi...
Donc c'est l'allusion à Rimbaud, c'est
oui, mais le Rimbaud et puis une vieille dame amie de ma grand-mère qui avait été cantatrice et que j'ai mis dans ce livre et ouais. qui chantait dans les cours pour gagner son et elle chantait des ritournelles, elle chantait je ne sais pas si elle chantait le ouais. temps des cerises, mais elle chantait des chansons populaires alors qu'elle avait été une grande chanteuse sur la scène. Et ce personnage de cette vieille dame obligée de gagner son pain à l'âge de 80 ans, en allant chanter d'une voix chevrotante dans les cours. Ça avait quelque chose de pathétique, un peu ridicule, et en même temps d'extrêmement léger, qui fait que moi j'aime bien les oxymores.
Et non, c'est le mélange du pathétique et de la légèreté, parce que le mot ritournelle peut avoir même quelque chose de dépréciatif. La récurrence de la ritournelle, c'est évidemment le boléro de Ravel, mais le boléro de Ravel n'est évidemment pas une ritournelle. Donc le choix de ce terme a quelque chose d'une densité extrême, qui reflète assez bien d'ailleurs votre manière et votre écriture.
Oui, ça s'est imposé à moi. Je crois que je ne pouvais pas parler autrement de la fin qu'en essayant de la dédramatiser, mais tout en disant ça, tout en disant son côté absurde et cette sorte de retour de quelque chose qui revient et qui revient constamment dans mon esprit. Ouais. Je ne parle pas de la fin dans le monde, mais de ma fin à moi.
Et encore un mot, Alain Gérard, puis Catherine Clément.
Encore un petit mot qui est, par rapport à tout ça, l'importance, me semble-t-il, de la sensation physique dans votre écriture. Lorsque vous parlez de la fac, vous décrivez le gosier occupé par la poudre, je ne sais plus quelle poudre que vous avez.
Oui, du lait,
vous avez
du lait en poudre.
Le sel que vous avez mangé. Ça me fait penser à un texte de vos débuts qui était le jour où Beaumont fit connaissance avec sa douleur, qui était aussi un texte d'une méticulosité extrême dans la description de la sensation physique.
Bah écoutez, j'appartiens à cette génération un peu perdue et brûlée qui avait connu le nouveau roman, mais c'était dans les marges. D'ailleurs, j'avais 18 ans quand le nouveau roman battait son plein. Et à laquelle on avait imposé les grands textes de la littérature psychologique et qui affichait avec peut-être un peu d'orgueil et de vanité un certain mépris pour tout ça et qui se référait plutôt à Salinger, à Jérôme David Salinger, comme le grand chantre de la non-psychologie, et tout en y insinuant une autre manière d'approche de l'être humain par une sorte de remplacement des caractères. Je crois que personne ne s'est mis à la place d'un enfant de 13 ans comme Jérôme David Salinger
dans L'Attrape-cœur.
L'Attrape-cœur, Catcher in the Rye. C'est un livre extraordinaire parce que c'est un homme de 40 ans qui vous fait croire que c'est un enfant de 13 ans qui parle. Et donc, c'est toutes ces références-là qui font que je me sentais un peu à l'encontre du mouvement du roman psychologique. On me l'a reproché, on m'a dit « Ah, vous faites une psychologie élémentaire ». Non, je ne fais pas de psychologie du tout. Je parle des sensations, je parle de ces petits mouvements presque imperceptibles qui font qu'on a un sens de l'existence et qu'on peut se glisser dans la peau d'un autre éventuellement.
Catherine Clément.
Et vous, comment faites-vous pour être dans la peau d'une jeune fille, Xenia, qui est très platoniquement et chastement amoureuse de ce qu'elle croit être sa meilleure amie. C'est l'inverse, c'est Ethel
qui est amoureuse de Xenia.
Xenia Chavirov. Ethel qui est amoureuse, mais très platoniquement, c'est juste une amitié adolescente. Comment avez-vous fait pour trouver des sensations aussi justes?
Elle se retrouve d'ailleurs sur l'île aux cygnes, au milieu de la scène et juste à côté de la maison de la radio.
Mais pas seulement ça, il y a une merveilleuse... Enfin, elles dansent ensemble. En fait, Xenia Chavirov est une épouvantable garce. Hein.
Oui,
mais
oui,
on le sait que beaucoup plus tard.
Oui, je crois que c'est, les passions que peuvent ressentir les adolescents, qui ne sont pas forcément des passions hétérosexuelles, ça peut être des passions homosexuelles, mais sans que ça, comme vous le dites, très chaste. Sans
chaste,
que,
oui, c'est très important. Ça.
Je crois que ça compte beaucoup dans l'existence. Et après, on reste avec une sorte d'amertume, quelque chose qui était imparfait, puisque effectivement, nous n'étions pas faits pour ça, mais qui reste également non accompli. Et si elle s'accomplissait, il y aurait peut-être de la culpabilité. Enfin, ça serait difficile. Donc, c'est un moment exceptionnel de la vie, un moment privilégié dans lequel ce moment de l'adolescence dont parle Salinger, moment où tout est gratuit. On risque sa vie pour rien. On risque sa peau, ses passions pour rien, simplement parce qu'on en reçoit l'impérieux besoin sans qu'il soit justifié par rien de moral, rien de social. Et je crois que ça, c'est vraiment la littérature peut rendre compte de ces moments-là.
Mais ça m'a fait penser aux jeunes filles qui, à l'heure actuelle, concluent des pactes de suicide, vous savez, se mettent dans les passages à niveau ou se jettent de des fenêtres.
Oui, c'est une triste solution à cette passion.
Oui, mais
à cette
il s'agit
absolu.
Bien de cette pulsion-là. Hein.
Oui, oui.
Marc Kravetz.
Oui, mais c'est précisément là que commence la littérature, parce que vous illustrez admirablement cette difficulté qui m'est personnelle à dialoguer autrement que sur d'autres sujets que c'est leur livre avec un écrivain. Au fond, on se dit que tout est dit. Tout ce qui doit être dit à ce moment-là est dit dans son livre. Et tout le reste, comme vous le disiez tout à l'heure dans vos conseils aux jeunes étudiants de Cohen, tout le reste est paraphrase. La paraphrase est très agréable, mais... parce que précisément, si on dit « je décris le mal de l'adolescence », on dit « ouais, un bon article, un traité de sociologie... » Et puis Salinger à côté, c'est autre chose, quoi. On entre d'un seul coup dans un autre monde, comme on entre avec vous dans un autre monde. C'est ce... je ne sais même pas si c'est une question. C'est ce saut en littérature qui me fascine en vous lisant et du coup en vous écoutant.
Jean-Marie Leclésio.
Oui, j'ai été très amoureux de Jérôme David Salinger, je dois dire la vérité.
Vous avez bon goût.
Je la reconnais publiquement. Oui. C'était mon idole. Et je crois que j'ai partagé cette idolâtrie avec beaucoup.
Il a disparu.
Oui, c'est quelqu'un qui a disparu, effectivement.
Il a complètement disparu.
Ça, c'est magnifique de disparaître.
Mais volontairement disparu.
Volontairement, il a absolument renoncé à donner toute interview, à apparaître en public. Il n'a pas été photographié depuis maintenant plus d'un demi-siècle.
Oui.
Vous n'êtes pas très éloigné de ça.
Vous partez régulièrement.
Je pense que Diderot aurait beaucoup aimé Salinger. C'est ce qu'il dit de la littérature, de cet exemple que la littérature peut donner d'une éducation et de toucher l'âme. Je pense que ça, c'était le cas de ce très grand écrivain.
On a beaucoup parlé du passé, de ce retour vers le passé dans ce roman. Il y a des choses extraordinairement contemporaines, notamment un dialogue, Jean-Marie Leclésio, à propos d'un crash boursier, tiens. La situation est précaire, personne n'a l'air de s'en soucier, mais le crash nous guette, ce n'est pas la clique actuelle qui va l'empêcher. Réponse d'Alexandre, qui dialogue avec Talon. « Bon, vous exagérez toujours tout. Enfin, tout cela est derrière nous. » »« Oui, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Les boursicoteurs ont tout intérêt. Mais retenez ce que je vous dis. Vous n'allez pas recommencer avec votre crash. Oui, oui, parlons d'autre chose. »
Oui, parlons d'autre chose, parce que c'est inévitable et ça fait partie de ce serpent, ce monstre froid qu'est l'État capitaliste. C'est vrai qu'il nous conduit nécessairement à ces situations-là. Le tout est de savoir ce qu'on va en faire. Je pense que, comme on le disait tout à l'heure, je crois l'avoir entendu, il s'agit aussi de quelque chose de très psychologique. Ça entre à l'intérieur de l'esprit et ça prend un caractère obsessionnel. Et c'est de cela qu'il faut sortir, effectivement.
Je ne sais pas si les écrivains sont des prophètes. En tout cas, ce qui est fascinant, c'est que sur deux pages dans ce dialogue à propos du crash boursier, il y a toute une séquence qui est un peu analogue à celle qu'on est en train de vivre, Jean-Marie Leclésio, à savoir une situation précaire, personne qui sait vraiment ce qui va se passer sur les bourses, le crash qui arrive, et puis derrière les discussions politiques et la haine qui arrive. L'or s'en va quand Blum arrive. Heureusement, Hitler est en train de nettoyer l'Allemagne. Et puis petit à petit, les discussions qui s'enveniment, qui appellent à la violence, qui appellent à la rescousse du grand homme. Espérons en tout cas que ça ne se passera pas comme ça.
Oui, le ciel vous entende.
Merci infiniment. Et puis rappelons donc aussi à la rescousse, c'est Marabout pour vous protéger du mauvais œil. Rendez-vous demain midi pour savoir si vous serez donc le prochain prix Nobel de littérature. Merci infiniment en tout cas Jean-Marie Leclésio de nous avoir rendu visite. Ritournelle de la fin, c'est le titre de ce roman, de ce très beau roman qui paraît chez Gallimard.